Merci beaucoup, merci. Cela sera glorieux quand, délivré des douleurs, je verrai sa face. Je suis très reconnaissant pour ce que Dieu fait aussi, de ce que dans toutes les différentes langues nous pouvons envoyer et diffuser en direct. Je voudrais aujourd'hui remercier nos frères et sœurs qui ont fait en sorte que la lettre circulaire en langue française soit déjà maintenant ce week-end à la disposition des frères et des sœurs. De tout mon cœur, je vous remercie. Notre sœur Janina, notre frère Tati et notre frère Jean-Lambert de Bruxelles, tous ont contribué à ce que cela soit possible et que la lettre circulaire en langue française aujourd'hui déjà soit à la disposition des frères et des sœurs. J'ai deux nouvelles. La première, les salutations fraternelles du frère Rousse. Le frère Rousse remet les salutations fraternelles, mais il se sent faible d'une manière que il ne pouvait pas venir. Nous avons de la compréhension pour cela. Les années nous atteignent tous, mais il est plein de courage et de tout son cœur, il nous a souhaité les riches bénédictions de Dieu. Ensuite, nous avons écouté la nouvelle que la sœur Terrar, hier, a été reprise à la maison. Notre frère Terrar est rentré chez lui hier soir à la maison. Et c'était aussi les dernières minutes pour sa femme, d'une manière qu'avec elle, notre sœur en Christ, il a pu encore ensemble eu les dernières minutes et il a remis entre les mains du Seigneur avant qu'elle quitte le temps pour aller dans l'éternité. Nous avons un endroit qui est préparé, c'est un titre que nous l'avons chanté et personne de nous sait quand est-ce que l'heure viendra. Et quand on a plus de 80 ans, le temps est sûrement pour nous déjà arrivé. Et les Écritures disent que la vie va jusqu'à 70 et 80 et c'est que de la fatigue ensuite. Ce ne sont pas tous qui ont le même privilège que notre bien-aimée sœur, comme tous ceux qui connaissent la sœur Lotte. Elle a 98 ans, et elle sente ici plein de force au troisième rang. Le Seigneur conduit les siens d'une manière merveilleuse, et il a un chemin pour chacun de nous. Les appels que j'ai reçus ce matin, 5 en tout, étaient vraiment bénis. C'est pour nous incompréhensible quelle joie les frères et sœurs remplis qui en direct écoutent par l'Internet et peuvent voir. Et aujourd'hui aussi, nous saluons tous dans le monde entier et nous souhaitons à tous de tout notre cœur les bénédictions de Dieu. Et ensuite, il y avait une question en relation avec la louange commune, l'adoration commune, et je voudrais ici dire la chose suivante. Ici, et on ne s'exerce pas à louer le Seigneur comme dans les réunions charismatiques. Ceux qui se tiennent sur la plateforme s'exercent à la maison, dans des pièces préparées pour cela, ils mettent la musique adéquate et comment se remuer, comment se comporter. Ils s'exercent avant la réunion à la maison, comment louer, comment la musique doit être, etc. Je le sais d'un frère dont la fille est responsable d'une assemblée pentecôtiste là-bas. Ce sont des informations qui sont vraies. Mais à cet endroit, ce n'est pas comme ça. Nous sommes ici enthousiasmés de tout notre cœur, comme autrefois la multitude des disciples était enthousiasmée d'avoir eu part à ce qui s'accomplissait en prophétie biblique dans leurs jours. C'était aussi l'accomplissement d'Ésaïe 35, versets 5 et 6. Quand le Seigneur viendra, les aveugles verront et ceux qui sont paralytiques marcheront, ceux qui sont muets entendront, ceux qui sont aveugles verront. Et quand le Seigneur entra à Jérusalem, ils ont loué Dieu, pas seulement qu'ils avaient devant leurs yeux Zacharie 9, verset 9, mais aussi Ésaïe 35. Et ils ont loué Dieu à cause de tous les miracles qu'ils ont vus de leurs yeux autrefois. C'était l'accomplissement des Écritures. Ensuite, nous avons ces deux versets bibliques particuliers, Actes des Apôtres 4, verset 24, où l'Église primitive était un seul cœur et une seule âme, et ensemble, d'un commun accord, élevèrent leur voix pour ensemble louer et exalter Dieu. Ensuite, nous avons ce verset particulier dans Luc, et ensuite aussi ce verset particulier dans l'Épître aux Romains. Je voudrais, dans l'Évangile de Luc, lire les deux versets de louange qui sont même chantés, pas seulement prononcés comme ça, mais chantés. C'est pour cette raison qu'il est écrit ici, dans Luc, le premier chapitre, sur le verset 26, nous avons cet écriteau, ce titre, la louange de Marie. La louange de Marie. Les psaumes ont été chantés, leurs âmes étaient touchées et ils ont, dans une mélodie, apporté leur reconnaissance au Seigneur. De Marie qui, d'une manière particulière, expérimentait donc l'accomplissement de l'Écriture. Il avait été dit qu'une vierge enfantera et recevra un fils dont le nom sera Emmanuel. Il est écrit dans Luc. Cantique de Marie, c'était verset 46. Marie dit, verset 46, Luc 1, verset 46, Cantique de Marie. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ensuite, suis la raison. Au verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. En allemand, a fait en moi de grandes choses. Est-ce qu'il n'a pas fait aussi de grandes choses en toi et en moi? Est-ce que la parole promise n'a pas été introduit, placé dans ton cœur et dans mon cœur? Le verset 50, il est écrit ensuite. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il veut faire miséricorde. C'est ainsi que c'est écrit. Ensuite, au verset 1, et 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Cela aussi se passe jusqu'aujourd'hui encore. Il déploie sa force. La force de son bras. La force de son bras, il la déploie. Mais à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? A été révélé. Et qui a cru à notre message? Au message. Ceux qui expérimentent son bras, il leur révèle sa parole et sa volonté. Ensuite, au verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Ensuite, la confirmation de la promesse d'Ésaïe. Le psaume 91, 3 et Ésaïe, comme il est dit ici, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Ésaïe 41, 8, comme il avait dit à nos pères, comme il avait dit à nos pères. C'était l'accomplissement des promesses que Dieu a données. Ensuite, nous avons rapidement, nous voulons aller dans Luc 1 toujours, la louange de Zacharie, le cantique de Zacharie, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Donc, c'était le Saint-Esprit qui se reposait et qui était sur eux. Et ensuite, il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un peuple sauveur, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Écoutez le verset 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Si on, quand on lit ces cantiques, ces prières, ces louanges, on ressent ce qui s'est passé dans ces hommes qui avaient part à l'accomplissement des promesses. Ensuite, au verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dieu a fait une première alliance et une deuxième alliance. Il a dit, après ces jours, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit, une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Dieu a réellement confirmé la parole qu'il avait donnée par les prophètes à l'avance. Ensuite, au verset 77, en relation avec Jean-Baptiste, que lui aussi, il avait sa place dans la Bible, dans l'accomplissement de ce que Dieu faisait autrefois. Et cela a sa place. L'ordre biblique de notre Seigneur et des ministères que Dieu a établis dans l'Église est important. Au verset 76 et 77, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ça, c'est Malachie, chapitre 3, verset 1. Les prophéties bibliques, dans leur accomplissement, sont révélées au peuple de Dieu et celui qui ensuite est conduit dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, qui est inspiré par l'Esprit, il ne pourra pas se détourner et passer à côté de ce que Dieu a promis et a fait, mais il l'exprimera dans sa louange et dans son adoration. Il exprimera ce que Dieu fait dans son temps et à quoi est-ce qu'il a la grâce de prendre part aux accomplissements des Écritures. Au verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ensuite, le verset 78 et 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, encore aujourd'hui, c'est ainsi que grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil, le vent nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. On a vraiment seulement besoin d'aller à Ésaïe 9, verset 2, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Bien-aimés frères et sœurs, hier, nous avons considéré les paroles des Saintes Écritures disant que Dieu a fait la paix. La lettre de condamnation est déchirée, le prix est payé, les fautes sont payées. Le sang de l'agneau, le sang pour l'Église de la Nouvelle Alliance a coulé et tous ceux qui de l'ancienne alliance appartiennent à cette œuvre sont aussi inclus en elle dans le grand dessein du salut de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a attendu le Messie et on l'a souhaité voir sa venue. Et dans le Nouveau Testament, nous regardons à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Pour nous qui sommes venus à la foi, à la vraie foi, c'est quelque chose de précieux qu'on ne peut pas comparer avec quoi que ce soit sur terre. Par la grâce de Dieu, nous avons compris que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais que tel que notre Seigneur l'a dit à Pierre dans Matthieu 16, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel, tel qu'il a dit à Pierre. La révélation depuis le commencement vient de Dieu. Nous voyons que le Seigneur vint aux siens et les siens ne l'ont pas reconnu, n'ont pas connu. Et si ensuite Dr. Leiden écrit que lors de la première venue du Christ, 109 prophéties ont trouvé leur accomplissement, je ne les ai pas comptées, je n'ai pas compté leur nombre, lui les a comptées. Imaginez-vous, pour un moment, plus de 100 prophéties se sont accomplies lors de la première venue du Christ. Et le Seigneur et Rédempteur était lui-même personnellement parmi eux. Et malgré tout, ils ne le reconnurent pas parce que les scribes et pharisiens les ont égarés par leurs interprétations. Le peuple croyait les interprétations de ces hommes. C'est peut-être la raison qu'ils n'ont pas pu reconnaître l'accomplissement des Écritures. C'est la même chose encore aujourd'hui. Le peuple écoute les interprétations. Et c'est peut-être raison qu'ils ne peuvent pas reconnaître la parole originale. Ensuite, nous avons déjà la différence entre ceux qui sont déterminés par Dieu pour la vie éternelle et pour faire un pas de plus, faire la différence entre ceux qui sont déterminés à prendre part à la première résurrection, à l'enlèvement, au festin des noces, et entre ceux qui, lors de la deuxième résurrection, selon Apocalypse 20, au verset 11, seront ensuite agréés. Il est écrit, n'est-ce pas, cette fois, dans Apocalypse 2 et 3, celui qui vaincra, et celui qui vaincra, c'est celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça pour seulement le mentionner, entre parenthèses, alors que notre bien-aimé frère, hier dans le bureau, disait, il était dans un pays européen, et voilà, il a appris que là-bas, il y a 17 différentes groupes et directions à l'intérieur du message. Et imaginez-vous ce que le frère Branham, du Seigneur lui-même, avait reçu. C'est-à-dire que le message qui lui a été confié précédera le retour du Christ. Et maintenant, il y a des hommes qui se sont assis au-dessus du message et ont mal compris les déclarations de frère Branham parce qu'ils les ont interprétées et les ont pas repris dans les Saintes Écritures. Et ils en ont fait des propres directions différentes. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous et pour toute l'Église épouse, c'est très important que Dieu a un endroit de sa révélation sur terre. Il a une Église dans laquelle il n'y a pas seulement la mécanique qui marche, c'est-à-dire l'enseignement véritable, mais dans laquelle aussi Dieu, dans sa puissance de résurrection par notre Seigneur, peut se manifester par sa grâce. Car si nous comparaisons que nous faisons une comparaison montrant que le retour du Christ est très proche. Et pour cela, nous avons le témoignage des Saintes Écritures d'une manière très extraordinaire et multiple. Pensons seulement à la promesse principale et à la prophétie disant que quand le figuier deviendra tendre, je me suis noté cela, les Juifs, depuis beaucoup d'années, reviennent dans le pays de la promesse. Mais en 1948, ça a été le fondement de la patrie d'Israël, proclamé par Ben Gurion en 1948, en mai. Et notre Seigneur dit, quand vous verrez que le figuier devient tendre, alors reconnaissez que le temps est proche. Oui, qu'il est devant la porte. 60 ans sont passés, sont venus et sont passés. 60 ans. Est-ce que nous ne devons pas comprendre que le temps de la grâce va vers sa fin et que le Seigneur, comme dans Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 15, verset 13 et Romains, chapitre 11, verset 25. Il est écrit que l'Église, que le Seigneur appelle de parmi les nations un peuple pour son nom et qu'ensuite Israël sera sauvé. Tout sans vouloir nous effrayer, au contraire, pour nous encourager à consacrer notre vie au Seigneur sur l'autel de Dieu. Et simplement expérimenter la vie du Christ. Je me suis encore noté deux ou trois versets qui aujourd'hui sont devenus encore très importants pour moi. Et je voudrais remercier mon bien-aimé frère Dietmar de Augsbourg. Il m'a donné cette pensée pour cela. Vous savez, il est écrit, ce n'est pas la chair et le sang qui, la chair et le sang ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, très connu de nous tous. Nous voulons le lire. Ce que je dis, 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ensuite, le regard est versé sur ce qui doit encore s'accomplir au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ça, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Seulement une remarque, telle que nous l'avons déjà entendue, avant que le corps, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, puisse être changé, il faut que l'âme, il faut que le cœur, la vie de l'homme, déjà maintenant, soit changée. Il faut que cette régénération intérieure par la nouvelle naissance ait d'abord lieu et que Dieu puisse nous l'accorder à tous par sa grâce. Ensuite, nous avons ces versets merveilleux de Luc chapitre 24, duquel j'ai été aussi mon attention a été attirée sur ce verset, Luc 24, ici, au verset 39. Luc 24, verset 39. Après sa résurrection, le Seigneur dit ici, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, ici, en allemand, je suis ici corporellement. Je suis ici corporellement. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que quelque chose vous a été clair? Après la résurrection, dans le corps du Seigneur, il n'y avait pas de sang. Avec le sang, notre Seigneur est allé dans le sanctuaire céleste avec son sang. Après sa résurrection, après la transformation, nous n'avons plus besoin de sang dans notre corps. Mais la vie qui est dans le sang, qui était dans le sang, maintenant, ce ne sera pas un corps de chair avec des cellules de sang dans un corps de chair. Ce sera, nous serons transformés tel que c'était dans Genèse, dans le jardin d'Éden, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28 du premier chapitre, que Adam, d'abord, avait été créé à l'image de Dieu. Et c'est ensuite, c'est seulement après, dans Genèse chapitre 2, verset 7, que celui qui avait été créé a été formé de la terre dans un corps. Il a été placé, ce qui avait été créé auparavant a été placé dans un corps de chair qui avait été formé de terre. C'est ainsi que ici nous avons le plan de la rédemption devant nos yeux. Alors que le Seigneur avait visité Abraham dans Genèse chapitre 18, il a mangé et il a bu avec lui. C'était pas un corps de chair et de sang, mais c'était le corps spirituel dans lequel il pouvait apparaître visiblement, dans lequel il pouvait être visible et même dans ce corps manger et boire. Ensuite, nous avons les versets merveilleux qui parlent de la rédemption, c'est-à-dire que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent pas. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur est venu dans un corps de chair et de sang. C'est peut-être raison qu'il est venu pour que la chair et le sang soient sauvés, pour d'abord donner pour la chair et le sang sa vie, et pour que ce corps de chair et de sang nous soit ôté et que nous recevions, et qu'il soit transformé et que nous recevions un corps de résurrection. Lisons cela dans Hébreux, le chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Et maintenant arrive. Il a lui-même également participé lui-même. Afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Nous repartons avec cela à Genèse chapitre 3 et au verset 15. Dans la chose principale, alors que Dieu le Seigneur disait, j'établirai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il y avait ces deux semences déjà depuis le commencement, mais les deux étaient dans un corps de chair et de sang. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, dans un corps de chair et de sang, a dû venir pour racheter tous ceux qui avaient été prédestinés en tant que filles et filles de Dieu, pour les racheter et nous accorder sa propre vie qui était dans son corps de sang, dans son corps de chair, qui a été apporté en sacrifice, c'est sa vie qui a été apportée en sacrifice par ce corps pour nous racheter et pour que nous puissions la recevoir. En relation avec l'œuvre accomplie de la rédemption que nous avons lue au verset 14 d'Hébreux 2, ensuite il est décrit au verset 15 d'Hébreux 2, Hébreux 2 verset 15. Ainsi il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ensuite, Hébreux, le chapitre 9, pour nous montrer que notre Seigneur a porté son sang dans le sanctuaire céleste et que le sang de l'agneau de Dieu, encore aujourd'hui, parle pour nous et est sur le trône de la grâce encore aujourd'hui, et que le sang de l'agneau jusqu'à l'achèvement, la perfection de l'Église épouse produira en nous tous son effet, car selon ça que c'est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Donc tout à sa place. Ici
in Hébreux, dem 9. Kapitel stehen von Vers 12.
Hébreux 9, verset 12, on devrait aussi lire le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc l'Église du Dieu vivant est rachetée. Le prix est payé. Et comme déjà hier ici de Romains 8, nous l'avons considéré. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Nous voulons croire, comme le dit les Écritures, et pour pouvoir entrer dans la bénédiction de ces choses, pas avec oui, mais est-ce que nous allons l'expérimenter ou pas? Non, c'est accompli. C'est accompli. Nous avons déjà été glorifiés. Et c'est ainsi que Dieu a lui-même donné la garantie que nous serons auprès de lui par sa grâce. Alléluia. Il a donné déjà la garantie que nous serons auprès de lui dans la gloire. Donc, avec son propre sang, dans lequel était la vie de Dieu, il est monté dans le sanctuaire céleste. Et son sang parle pour nous. Et la vie qui était dans le sang est, par la grâce de Dieu, manifestée en nous. Et ensuite, Galates 2, verset 19 est réel. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie par moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Dans Hébreux, le chapitre 13, il nous est représenté devant les yeux que notre Seigneur a souffert pour nous à l'extérieur du camp, en dehors du camp, et que nous devons aller en dehors du camp et porter son opprobre. Hébreux, chapitre 13, verset 12 jusqu'au verset 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, pas seulement le racheter, mais le sanctifier. Il y a les versets bibliques qui parlent de la rédemption, qui parlent du rachat. Il y a les versets bibliques qui parlent de la sanctification. Donc, il a été fait pour nous. Rédemption, sanctification, justification. C'est comme ça que Paul l'écrit aux Corinthiens. Lisons encore cela ici. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, et cela par son propre sang, il a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et ensuite la constatation, au verset 14, car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. On peut lire dans Hébreux 11 que Abraham cherchait cette ville dont Dieu en est l'architecte. Jean vit la nouvelle Jérusalem descendre. Bien-aimés frères, Dieu a des pensées de paix avec nous. La rédemption est accomplie. Et comme souvent nous avons eu à le dire, Parce que la chute de l'homme a eu lieu dans un corps de chair et de sang. Et c'est ainsi que Satan est entré dans l'homme, dans l'humanité. C'est pour cette raison que la rédemption devait avoir lieu par le sang pur et saint de Dieu, dans lequel la vie de Dieu était, pour nous délivrer de la puissance du diable, pour nous faire sortir entièrement de l'influence satanique, nous faire passer de la mort à la vie, nous faire sortir de tout ce qui n'est pas venu de Dieu par la chute de l'homme et nous accorder la vie de Dieu réellement. Donc, le plan du salut de notre Dieu est parfait. On n'a même pas besoin de beaucoup parler de la chute de l'homme. Aussi, la Bible est, en ce qui concerne ce sujet, très économique et épargnante. On doit seulement lire les versets bibliques qui montrent ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, les suivre l'un après l'autre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous avons accepté l'œuvre de la rédemption, que nous puissions expliquer la chute de l'homme ou pas. Ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que nous savons que nous avons été sauvés et que nous sommes ressortis de cette chute et que l'inimitié a été annulée et que l'adversaire est vaincu et que la mort est vaincue et que nous avons la vie éternelle par la grâce de Dieu. Comme déjà je le disais, tous ces versets bibliques et ces sujets sont écrits donc comme fermés, pas ouvert pour tous. Toutes ces paraboles sont fermées. Et c'est ainsi que c'est au Seigneur que le Seigneur a dit, c'est à vous qu'il a été donné. Sont scellés, toutes ces choses sont scellées. Sinon, tous les hommes l'auraient su. Aussi, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais c'est scellé. Hein? J'étais un après-midi, à peu près vers 14 heures. Quand l'ange de l'Éternel se tenait dans la pièce et exactement disait à frère Branham et lui montrait les versets bibliques et lui disait exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il était à peu près 14 heures. Et nous avons les versets bibliques concernant cet acte. Mais comme je viens de le dire, nous n'avons pas tellement besoin de vouloir l'expliquer. Pourquoi est-ce que nous devrions nous approfondir dans cela? Approfondissons-nous dans l'œuvre accomplie de la rédemption, dans la grâce que nous avons reçue. Car nous savons tous qu'il y a eu un laps de temps sans péché, sans maladie, sans mort dans le jardin d'Éden. Il y avait cet laps de temps. Et le Seigneur lui m'avait dit, le jour où, et c'est là que cela a commencé. Et en fait, ce qui est dommage, c'est, ça je voudrais aussi le dire, c'est que les chapitres ont eu lieu seulement après l'année 60, le 16e siècle. Jusqu'au 16e siècle, tout était écrit comme sur des rouleaux, sans chapitre, comme sur des rouleaux. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Il y avait seulement des rouleaux et la parole était écrite comme ça, sans bout. Et imaginez-vous que quand on considère le départage de Genèse 3 et Genèse 4, si on n'avait pas ce partage de chapitres et qu'on lit directement comme ça Genèse 3 et directement Genèse 4, comme s'il n'y avait pas de chapitre, c'est là que on reçoit la révélation. On n'a pas besoin encore de vouloir commencer comme un nouveau chapitre. Non, c'est la même chose qui continue. Genèse 3 et Genèse 4. C'est là qu'on remarque réellement ce qui s'est passé. On continuerait donc à lire, c'est-à-dire ce que le serpent a fait. Et en fait, le mot serpent est au féminin seulement en allemand. Seulement en allemand. En allemand, on dit la serpente. La serpente. Mais dans toutes les langues de la terre, c'est le serpent. Dans toutes les langues, même en grec, au obis, tout au masculin, jamais au féminin. Mais encore, pour le dire ici, si on lit directement la Genèse dans le contexte de tout le chapitre 2, 3 et 4, on saura directement ce que le diable a fait, ce que l'adversaire a fait avec sa séduction. Ensuite, on continuerait sans chapitre, on continuerait dans le chapitre 3. Et ensuite, Adam a connu sa femme et elle enfanta. Et ensuite, elle enfanta le premier fils avec l'aide du Seigneur. Et il n'y avait pas de sage-femme. Adam ne savait plus aussi, ne savait pas comment une naissance doit avoir lieu. Hein, c'était la première naissance sur terre. Et c'est ainsi que, bien sûr, Ève a dû invoquer le Seigneur pour qu'il l'aide. C'est pour ça qu'il est dit avec l'aide de l'Éternel. Hein? Ensuite, il est dit, elle continue et enfanta. Il n'est plus écrit que Adam a connu Ève. Il est simplement dit qu'elle reçut ensuite, sans qu'il soit dit que Adam l'a connu encore. Ensuite, on voit que le premier fils, avec une nature satanique, avec jalousie, haine, colère, tout ce qui appartient à Satan, et l'autre était le premier sacrifice, donc Abel. C'est moi pour votre information. Pas une unique fois dans la Bible, il est écrit que Adam était le père de Caïn. Pas une unique fois, il est écrit que Caïn est le fils d'Adam. Pas une unique fois dans le Nouveau ou bien l'Ancien Testament, il est écrit que Caïn serait dans la liste de la généalogie de la descendance d'Adam. Vous pouvez le lire trois fois dans la Bible, deux fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau Testament. Caïn n'est jamais dans la généalogie d'Adam décrit. Seulement pour votre orientation, pour vous montrer que Dieu a envoyé un prophète dans notre génération pour ne pas seulement nous révéler le dessein du salut de notre Dieu, mais pour aussi nous introduire et nous montrer comment est-ce que la séparation de l'homme et Dieu a eu lieu. Comment, en fait, la chute de l'homme a eu lieu et pourquoi est-ce que la rédemption était nécessaire de cette manière, c'est-à-dire dans un corps de chair. Mais revenons encore à quelques versets bibliques importants que je me suis encore aussi noté. Dans le psaume 76, l'homme de Dieu, du verset 2 au verset 11, exprime ce qui lui touchait le cœur. Et ici nous lisons Psaume 74, verset 2 jusqu'au verset 11. Psaume 74, je lis seulement le verset 2. Souviens-toi de ton peuple, en allemand de ton église, de ton assemblée, que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Psaume 74, verset 2. Ensuite, le psaume 79, verset 1. Psaume 79, verset 1. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Ces deux versets de l'Ancien Testament nous montrent quelle douleur les hommes de Dieu ont eu de ce que l'Église de Dieu, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, n'est pas resté dans les choses pour lesquelles Dieu l'avait déterminé depuis le commencement, c'est-à-dire que Dieu avait dit, j'habiterai, je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Le temple avait été réellement bâti pour que Dieu, avec sa gloire, descende et y habite, visite son peuple, ait communion avec son peuple. Et dans l'Ancien Testament, le grand sacrificateur, quand il entrait dans le sanctuaire, il portait le pectoral avec les 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il devait rentrer dans le sanctuaire toujours avec le pectoral sur son cœur. Et ce pectoral rendrait témoignage. Quand la lumière brille, ça rend témoignage que ce qui est apporté vient de Dieu. Quand la lumière ne brille pas, ça veut dire que ce qui est apporté ne vient pas de Dieu. C'est pour cette raison que le pectoral est appelé Urim Tumim. Justice et droiture. Lumière, donc, oui. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'enseignement des 12 apôtres. Ce qui n'est pas en accord avec l'enseignement des apôtres ne vient pas de Dieu, n'est pas vrai. Et c'est tout. Il faut que l'enseignement des apôtres brille sur tout ce qu'on croit et on apporte. C'est pour cette raison que dans Matthieu 13, le Seigneur a semé la bonne semence. Et la semence qui a produit son fruit, la bonne semence qui a produit son fruit, ce fruit-là, ce sont les fils et les filles du royaume. L'adversaire, lui aussi, par ses interprétations, semé sa propre semence. Et les deux, sur le même champ, et les deux semences ont porté du fruit. Et les deux semences ont reçu le même soleil et la même pluie. Mais c'est en leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comme déjà hier, nous avons eu à le dire, l'inimitié, l'adversité a été une fois pour toutes pour les vrais enfants de Dieu ôtée. C'est fini pour les vrais enfants de Dieu. Là où il y a encore de l'inimitié parmi les frères, c'est l'adversaire qui est derrière tout cela. Mais là où il y a la réconciliation, le pardon et l'amour, là c'est l'Esprit de Dieu. Car c'est là qu'il y a la grâce et le salut. Tous vous connaissez la parole de Matthieu 16, verset 16 au verset 19. Moi, je bâtirai mon église. Alléluia. Vous connaissez tous la parole de 1 Timothée, chapitre 3, au verset 15. Pour que tu puisses savoir comment on doit se comporter dans l'église de Dieu, qui est l'appui et le pilier de la vérité. Dans l'église du Dieu vivant, aucune interprétation a de la place. C'est pas possible. L'église du Dieu vivant est constitué de fils et de filles de Dieu, nés de nouveau par la semence précieuse, incorruptible, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'ils sont ravis, établis dans le royaume de Dieu pour seulement croire comme dit les Écritures. C'est au frère Branham, comme hier nous l'avons lu, qu'il a été dit que la loi de la reproduction a été depuis le commencement donnée, déjà dans Genèse chapitre 1. Il est dit que chaque semence produit que selon son espèce. Ça, c'est jusqu'aujourd'hui encore ainsi. Et c'est pour cette raison que la semence incorruptible est semée. Et là où la semence incorruptible est semée, là il y a des fils et des filles de Dieu qui se seront manifestés. C'est pas possible autrement. Ensuite, notre Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Bien-aimés frères, dans cette église, Dieu a établi différents ministères et dons et devoirs. Et nous attendons réellement un rétablissement, une restauration, une restitution de tout ce qui était dans l'église au commencement. Mais nous avons aussi constaté, avec douleur, constaté que l'adversaire, à l'intérieur du message, a semé beaucoup de discorde et de désunion parmi les frères. Différentes directions ont apparu. Soyez sincères. À quoi est-ce que ça sert aux frères de se disputer sur une révélation des sept tonnerres et de spéculer là-dessus, ou bien sur le sept sceaux, de spéculer sur tant de choses. À quoi est-ce que ça leur sert? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le font? C'est rien d'autre que perdre son temps. C'est un temps que l'adversaire leur dérobe. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce que nous avons reconnu le ministère de frère Branham. Il était le prophète promis. Ça, nous pouvons le dire dans chaque réunion d'une manière nouvelle. Est-ce que quelqu'un de tous ces grands évangélistes a pensé une fois à lire Malachi, les derniers chapitres, tous ces évangélistes-là, est-ce qu'il y a quelqu'un de ces gens-là qui a une fois lu au peuple de Dieu Malachi, le dernier chapitre? Non. Tous ont construit leur royaume dans le royaume de Dieu et ont attiré l'attention du peuple de Dieu sur leur personne. Frère Branham a attiré l'attention du peuple de Dieu, jamais sur lui-même, mais toujours sur le Seigneur. Tel que tous les prophètes et les vrais hommes de Dieu étaient qu'un écriteau, qu'une pancarte. Ils ont fait que préparer le chemin. Ils ont montré le chemin. Mais ils n'étaient pas eux-mêmes le chemin. Ils étaient seulement des gens, des écriteaux, des pancartes qui ont préparé le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout en tous. Mais nous le voyons que l'adversaire a semé sa semence, par les interprétations. C'est une douleur pour nous, mais nous ne pouvons pas changer les choses. Le Seigneur a même dit, laissez les deux semer et les deux croître jusqu'à la récolte. Je me suis dit de ne plus parler des détails, des choses que les gens enseignent partout. Et c'est toujours pour se faire un groupe et attirer des disciples à leur suite, mais de passer mon temps à méditer la parole de Dieu et à insister sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé. Comme souvent hier soir déjà, nous l'avons dit, que tous nous devons trouver notre place. Les femmes trouvent leur place, les hommes trouvent leur place, la famille trouve sa place, l'église trouve sa place, et que tout soit de manière harmonieuse, divine, ordonnée. J'ai pas apporté cet article du journal où une femme est évangéliste, hein, elle est évêque dans l'église avec ses deux filles et elle s'est laissée divorcer de son mari. Et ensuite, ce grand article avec le titre « Il a quitté la maison commune ». Et vous savez sur quel verset biblique cette femme-là, cet évêque-là s'est référé? Ce que vous déliez sur terre sera délié au ciel. Voilà le verset qu'elle a choisi pour justifier son divorce. Imaginez-vous, ce que vous déliez sur terre sera délié au ciel. D'un côté, ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur terre sera délié au ciel. Donc, j'ai délié mon mariage, alors il sera aussi délié au ciel. Non, la parole de Dieu est comme pour dire, blasphémée et comme pour dire, violée et utilisée pour sa propre justification. Non, on n'a même pas le droit de continuer à penser à ce qu'ils disent et enseignent. Est-ce que la Bible a parlé même une fois d'une évêque? Est-ce que la Bible a déjà parlé d'une apôtre, d'une prophétesse, d'une enseignante, d'une docteure, d'une évangéliste? Ou bien est-ce que la Bible ne parle toujours pas seulement que Dieu a établi dans l'Église les uns comme apôtres, pas les unes, mais les uns? Est-ce que ce n'était pas écrit dans Actes apôtres 13 que dans l'Église, à Antioche, il y avait des prophètes et qu'il est écrit qu'il y avait des prophétesses et qu'il est écrit qu'il y avait des docteurs en tant que femmes dans l'église d'Antioche. Nous devons revenir à la Bible. Et que cela soit dit, particulièrement adressé à vous, bien-aimés sœurs. Vous deviez remercier Dieu et être reconnaissant de ce que, par la bouche du prophète, il a apporté la vraie parole, aussi pour les femmes, pour le couple et la famille. D'une manière nouvelle, il a placé sur le chandelier. Vous devriez dire merci à Dieu de ce que Dieu, dans le message, vous a montré votre place. Sinon, vous ne pourriez pas atteindre le but. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous vous connaissez le verset biblique. Jean 4, au verset 34. Ça, c'est ma nourriture. De faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas seulement être envoyé, mais faire sa volonté. Quelle est ta nourriture? Quelle est ma nourriture? Quand est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Seulement si nous trouvons notre place. Et c'est seulement comme ça que nous sommes réellement dans la parfaite volonté de Dieu. Si nous sommes à notre place, ça, comme les Écritures le disent, soumettez-vous les uns les autres tel que la crainte devant Christ le demande. Mais pour nous, frères, il y a cette parole merveilleuse aussi qui est adressée. Repartez à 1 Corinthiens 11. Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de l'homme, du mari. Le mari est le chef de la femme. Ça, c'est l'ordre divin. Et nous devons aussi nous soumettre. Il faut que Christ soit notre chef. Réellement, nous devons nous soumettre en toutes choses à notre chef en tant que mari. Et les femmes doivent se soumettre en toutes choses à leur mari. Si elles sont mariées, elles doivent se soumettre tel que le mari doit se soumettre à Christ. Ce n'est pas possible autrement. Imaginez-vous que si à la maison nous n'avions rien d'autre que des disputes et des querelles et que nous venions comme ça le dimanche à la réunion comme des anges et on n'a même pas parlé l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Et puis on s'attend que dimanche, oh Dieu, inspire le prédicateur et remplisse l'église du Saint-Esprit et agisse de manière puissante. Non, c'est pas comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons nous dire cela. Frère Branham l'a vu. Je vais pas vous retenir longtemps avec cela, mais ici, l'homme de Dieu a vu l'épouse, ensuite il a vu l'église, ensuite de nouveau, il a vu l'église, il a vu l'épouse. Et je voudrais vous lire cela de la prédication, le chef-d'œuvre. Je fus ravi. Quand cela s'est passé, il y avait quelqu'un auprès de moi. Je vis, je ne vis pas la personne, mais j'entendais la voix de cette personne. Et j'ai regardé dans la direction d'où venait la voix et il m'a dit, l'épouse vient comme visible, en vue. Et quand j'ai regardé, je vis un groupe de femmes habillées le plus décemment qu'on pourrait l'être. Habillées décemment. Chacune d'elles semblait être habillée de manière différente que l'autre. Tous avaient de longs cheveux, de longs chemise était longue et de longues robes. Elles étaient tous vierges, à peu près 20 ans. Restons là un moment. Tous, vous savez ce qui est écrit dans Job 33, verset, que nous, dans la résurrection, nous serons ramenés dans notre jeunesse et qu'on n'entendra plus parler de mort, de vieillesse, de maladie, etc. Il n'y aura plus tout ça. Nous serons ramenés dans notre jeunesse pour toute l'éternité. Moi, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais alors que j'ai vu l'enlèvement, je fus enlevé, alors que je fus enlevé et que j'ai vu le troupeau en tous habillés en blanc, tous étaient jeunes. J'aurais pu les estimer de pas plus de 18 ans, pas plus âgés de 18 ans que 18 ans. Et toutes les sœurs avaient leurs cheveux ouverts pendant sur leur dos, et les frères, je les ai vus tous. Dans cette dimension-là, on peut voir le premier au dernier, on peut voir chacun, il n'y a pas de différence. Dans cette dimension, c'était tout un nombre de personnes qu'on ne pouvait pas compter. Ça allait jusqu'à dans l'éternité. Mais malgré tout, je pouvais voir chacun. Et frère Branham a vu l'église, il a vu l'épouse, et il a dit, je regardais les hommes, et ensuite il m'a dit, mais à qui est-ce que tu regardes? Et j'ai dit, je regarde la Bible, et j'ai dit, ça c'est la vérité, je l'ai vu, je peux que dire que ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je dois vous le dire seulement. Ensuite, cette phrase de ce côté, celui qui me parla se tenait près de moi, se tenait à mes côtés. L'épouse était constituée de personnes aimable et plein d'amour. De telles personnes, j'en ai jamais vu de toute ma vie. Et à peu près une douzaine, ou bien, elle semblait être plusieurs, enfin, une douzaine ou bien plus de personnes. Ensuite, ce groupe qu'il avait vu, qui sont passés devant lui, aimables, jolies, elles étaient de différentes nations. Et nous avons, n'est-ce pas, terrestrement des pays avec des habits différents qui représentent le pays. C'est ainsi que frère Branham les a vus. Chaque fille était représentée un pays. Et imaginez-vous maintenant la chose suivante. Comme chose suivante, il disait qu'il a vu le groupe américain. Et frère Branham, c'était l'église. Il a dit, je suis américain. Mais elle m'a rendu malade. Je peux pas exprimer ce que j'ai vu parce que nous sommes ici un groupe constitué de femmes et d'hommes. Vous allez devoir lire entre les lignes. Alors que ces femmes s'approchaient, il n'a pas dit l'épouse, mais l'église. D'abord, il a vu l'épouse, ensuite, il a vu l'église une fois, mais il a vu l'épouse deux fois. Il faut faire la différence. Alors que ces femmes s'approchaient, vous pouvez vous-même, dans la prédication, le chef-d'œuvre, lire la description et reconnaître toujours le message. Elles étaient conduites par une sorcière, et celle qui les conduisait était une sorcière. Elle avait un long nez comme ça, et une longue bouche. Vous savez que Dieu a montré aussi, a parlé au prophète toujours par des images, toujours en parabole à des images. Cette femme-là avait une longue bouche et un long nez. C'est bien si à la maison, vous-même, vous lisez cette prédication. Cela a eu beaucoup de choses à me dire. Que c'était une sorcière. Donc, elles ont été ensorcelées. Et ils ont pu continuer à faire les choses comme ils le faisaient auparavant. Mais pas dans l'église. Mais pas dans l'épouse. Ensuite, frère Branham revu encore une fois l'épouse. Et ensuite, il mentionne l'Allemagne. Oui. Ici, les Allemands sont mentionnés. Et il a dit, concernant l'église, c'était des dames orgueilleuses. Elles me regardaient en passant. Et j'ai observé que chacune d'elles était habillée différente que l'autre. l'une d'elles qui marchait à peu près derrière, tous, avec de longs cheveux. Et elles étaient donc roulées derrière. Ici, nous avons les sœurs. Elles sont toujours, donc, elles ont les cheveux comme ça, pas ouverts, mais roulés. Et il a dit, ça pourrait être une Allemande. Donc, je l'observais. Et quand elle s'est éloignée, la deuxième et les trois dernières sont venues. Et je leur ai dit quelque chose. Et elles essayaient de nouveau. Elles essayaient de revenir dans le pas. Et après que je les ai vues, la vision fut terminée. Bien, mes frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails de ces choses. Mais nous aussi, en tant qu'Église, réellement, nous passons par les chemins les plus difficiles. La place sur la terre pour l'Église n'est pas à Rome ou bien à New York, mais là où Dieu a accordé sa parole, là où il a accordé un mandat divin pour porter la parole de Dieu dans le monde entier. C'est la place, le lieu d'attaque de l'adversaire et la demeure du Très-Haut. J'espère que vous comprenez. 19 fois, Israël a été toujours de nouveau, Jérusalem a été 19 fois détruite. Pourquoi ? Parce que c'était la ville que Dieu avait choisie, la sainte ville de Dieu. C'est peut-être raison qu'aujourd'hui encore, il s'agit toujours de Jérusalem. Et quand frère Branham a vu l'épouse, selon qu'elle était habillée, il a dit que c'est sûrement une Allemande, et il lui a parlé pour qu'elle puisse revenir sur le pas. Et l'adversaire a réellement essayé de détruire. Oui, il vient seulement pour détruire. Mais le Seigneur, lui, il vient pour que nous puissions avoir la vie et la voir en abondance. L'adversaire a le devoir de détruire. Et nous remercions Dieu de ce qu'il ne pouvait pas détruire. Aussi en 79, l'adversaire n'a pas pu détruire. Non, ce n'était pas possible. Dieu a détendu sa main sur tous et le fera jusqu'à dans toute l'éternité. Nous sommes passés par des chemins, par des épreuves très difficiles, et qu'elles deviennent encore plus difficiles. Sûrement ce sera ainsi. Mais hier, c'est la seule chose que je voudrais vous mentionner sans vous trop vous occuper avec cela. Du frère Branham, j'ai dit quelque chose hier en ce qui concerne donc les problèmes d'impôts. Et il a dû trois fois le mot Christ Town. J'étais tellement brisé, Christ Town. J'étais brisé. Il ne pouvait plus prêcher. Il était emporté. Des avocats ici et là, des négociations, Et alors que il me disait qu'on lui avait privé de, on l'avait privé de son passeport, il pouvait pas aller en Allemagne parce qu'il n'avait pas de passeport, etc. Et tout, et justement à cause de cette histoire d'impôt. Réellement, lundi, le 31 octobre, en 1989, c'était le jour de la Réformation, j'ai pensé à ce jour. Lundi, en 1989, le 31 octobre 1989, j'étais encore à Zurich. C'était le dernier dimanche du mois. Et voilà, deux voitures avec six personnes avant 6 heures, sont venus ici au centre missionnaire. Ils ont apporté des melottes pour me conduire parce que j'ai été accusé par mon fils aîné. Ensuite, des années sont passées qui m'ont ôté beaucoup de force et d'énergie. Toujours devant la justice, 19 points d'accusation ont été prononcés. Des personnes qui étaient ici dans l'église et qui avaient écouté la parole pendant des années ont rendu témoignage contre moi. 10 années sont passées dans lesquelles je suis passé par des choses difficiles. Et je peux que remercier Dieu de ce que il m'a conservé et m'a fait grâce et m'a accordé sa grâce. Si vous saviez tout ce qui est lié à un mandat divin, à un ministère promis dans la Bible, vous penserez encore plus à moi tous les jours de votre vie. 6 frères en tout, qui comme faux témoins ont dit des choses qui n'étaient même pas vraies. 6 personnes qui habitent ici à Krefeld, 2 de la Suisse, qui aussi ont été inclus dans cette affaire. Je vous dis, c'était des années. Et malgré tout, je dois pour l'honneur de Dieu dire que j'ai pas manqué un seul voyage ou bien j'ai pas eu besoin d'annuler un seul voyage durant toutes ces années. J'ai continué à voyager tel que cela était dans mon calendrier durant toutes les années, dans le calendrier de Dieu, durant toutes ces années où j'avais des nuits nocturnes. Mais ensuite, il y a eu donc le 7 janvier où même le journal de Krefeld a sorti cela. Alors que tout ce que nous avions comme document est privé, tout nous a été privé. Tout ce que nous avions pour le centre missionnaire, des caisses ont été transportées et privées. Des documents nous ont été privés, nous ont été confisqués. Ont été saisis. Et donc les 19 points d'accusation ont été lus. Et des documents ont été saisis, des caisses ont été saisies. Alors j'ai levé ma main après l'accusation et j'ai demandé de dire quelque chose. Et cela a été permis. Et après que de manière très brève et quelques minutes, j'ai dit ce que j'avais dans le cœur. Le juge s'est levé, le souverain s'est levé, de Düsseldorf s'est levé et a dit, dans 20 minutes, il y aura l'annonce du jugement qui aura lieu. Ils se sont retirés pour se conseiller. Et après 20 minutes, donc tous les juges sont revenus, sont rentrés, se sont assis et le juge s'est levé et a annoncé la délivrance de tous ces 19 points d'accusation. Alléluia! Pas un seul point. La délivrance de tous les 19 points et les accusateurs devaient payer le prix de tout. Devait payer le prix de toutes ces accusations. Dieu veille pour son peuple. Et si j'ai dû passer par ce chemin difficile, alors j'ai à passer par ce chemin difficile et je continue à le faire sans me plaindre dans mon cœur. Contre qui que ce soit, je fais que porter de la douleur pour chacun. Et la douleur, je voudrais particulièrement les pères, les mères, je voudrais vous la témoigner. Je ne le dis pas parce que je porte de la douleur pour moi. Je le dis seulement parce que vous aussi vous soyez informés, vous écoutez, n'est-ce pas, je ne sais pas, toutes sortes de choses, en calomnie dans le monde entier. Mon fils aîné qui m'a accusé à cause de ce que sa maman lui a ordonné de dire et de faire, qui donc voulait me voir, sa maman voulait me voir en prison. Jusqu'à aujourd'hui encore, mon fils ne m'a jamais invité pour prendre une tasse de café. Il habite dans cette ville. Je connais sa maison. Je ne connais même pas sa maison. Je n'ai jamais vu sa maison, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Je ne sais pas où il habite. Mais il attend l'enlèvement. Il attend la transformation. Il parle du message. Tous les jours de sa vie, il prêche. Il a une église ici à Krefeld. Non, ce ne sera pas possible. Même à mon anniversaire, de ces 10 petits-enfants que j'ai, pas un seul a le droit d'avoir communion avec moi. Pas un seul a le droit de m'appeler. Ils disent que je suis l'antichrist. Je suis celui qui séduit l'épouse. Ils disent, il y a 9 points d'enseignement qu'ils ont contre moi. Et il y a 9 points de tout ce que je serai. Vous pouvez vous imaginer quelle douleur je porte. Et je vous dis, c'est là le premier week-end du mois de cette année. Pensez à moi. Et si l'un de ces gens-là n'est pas allé trop loin, parfois on pourrait avoir l'impression que c'est trop tard. Mais nous voulons quand même tout penser à tous dans la prière. Tous ceux qui ont déterminé d'éternité en éternité à voir la gloire de Dieu. De la même manière, je voudrais simplement vous dire encore une fois quelle douleur je porte dans mon cœur. Et cela pour la chose unique, parce qu'un appel divin existe dans ma vie seulement à cause du mandat. C'est seulement à cause du mandat. L'adversaire veut détruire l'Église, veut détruire le peuple de Dieu, veut détruire l'œuvre de Dieu. C'est seulement à cause de ça. Je ne vais pas oublier, je ne vais jamais oublier, alors que ces paroles-là ont été même prononcées. Je dois te détruire. Je dois détruire ton œuvre, etc., etc. Bien-aimés frères et sœurs, je termine avec une parole de Dieu que je vais seulement lire de 1 Pierre, le chapitre 1, au verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Réjouissez-vous avec moi de ce que Dieu aura la victoire et que l'Église épouse sera achevée et parfaite. Réjouissez-vous avec moi de ce que la parole de Dieu dans le monde entier est portée. Réjouissez-vous avec moi de ce que Dieu a son chemin, même si nous devons passer par l'opprobre la plus difficile. Nous porterons la croix. Ensuite, nous allons la changer avec la couronne. Nous portons maintenant la croix. Ensuite, nous allons la changer, les changer avec la couronne. 1 Pierre chapitre 1 au verset 13. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ensuite suit cela adressé à nous tous. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Que Dieu le Seigneur puisse nous l'accorder à tous, à toutes les sœurs, à tous les frères. dans le couple, dans la famille, dans l'église, que réellement nous puissions trouver notre place. Et cela dans la plénitude de l'obéissance de la foi, dans la plénitude de l'introduction du modèle biblique, pour que le bon plaisir de Dieu puisse se reposer sur nous tous et que nous allons de l'avant joyeux. Je suis sincère, depuis quelques jours, avec un nouveau courage et une nouvelle force, je suis rempli. Et je remercie Dieu pour cela. Et je demande à tous d'oublier ce qui n'appartient pas directement à la prédication de la parole de Dieu. Je vais aussi demander que les frères puissent l'ôter de cette réunion. J'ai seulement voulu dire ces choses ici, dans l'assemblée locale, pour que vous puissiez un peu plus porter encore ma vie dans la prière et mon ministère. Et c'est ainsi que je vous dis merci à vous tous. Et je voudrais aussi, lors de cette occasion, à vous tous, et particulièrement vous tous, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ces trois pays, depuis le commencement, ont soutenu l'œuvre de Dieu et aussi les pays voisins, particulièrement depuis longtemps, l'Elsace, notre bien-aimé frère Kupfer et d'autres. Et si je vous disais quel montant a été donné dans l'année 2007, cela vous donnera une nuit sans sommeil. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que chaque reçu pouvait être payé, chaque voyage pouvait être payé, tous les frais ont pu être couverts et il est resté encore suffisamment. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il est resté suffisamment. Dieu le Seigneur vous bénisse aussi en ce qui concerne ce point pour votre fidélité, d'une manière que le travail dans le royaume de Dieu et la propagation du dernier message divin peut avoir lieu dans le monde entier. Que le Dieu Tout-Puissant laisse luire sa face sur vous, sur nous tous, et nous accorde sa paix et sa bénédiction dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Je ne sais pas si aujourd'hui nous aurons le courage de le faire ensemble, mais nous voulons le faire, remercier, louer le Seigneur ensemble de ce qu'il nous a porté, de ce qu'il nous a gardé, de ce qu'il nous a aidé, de ce que nous pouvons demeurer dans sa parole et que réellement il nous a privilégiés de porter sa merveilleuse parole. Nous allons aussi prier, avant de prier pour tous les frères qui, dans les différents pays et langues, prêchent la même parole, portent la même parole, que Dieu puisse les bénir tous. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta fidélité, pour ta parole merveilleuse et sainte. Nous te remercions pour ta présence, pour toutes tes bénédictions. Nous te remercions de ce que tu parles avec nous et que tu es avec nous dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves. Bien-aimé Seigneur, tu as béni, tu as aidé. Ô bien-aimé Seigneur, aie ton chemin, ô Dieu, et béni de la bénitude de ta grâce. Et nous te demandons, nous te prions pour nos ennemis, nous te prions pour nos adversaires, de tout notre cœur, et de toute notre âme. Bien-aimé Seigneur, fais grâce, fais miséricorde, accorde ta grâce, accorde un changement, un commencement. Sanctifie cet endroit où tu es adoré et que tu aies ton chemin avec nous. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous le confessons. Nous le confessons. Si tu n'avais pas été pour nous et avec nous, tout aurait pris fin. Mais tu étais avec nous et tu resteras avec nous. Tu as béni et tu continueras à le faire. Et l'adversaire sera placé sur ton marchepied. Lui qui voulait détruire, qu'il soit détruit dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux soient délivrés de la malédiction dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu, alléluia, grand Dieu. Nous voulons ensemble, dans la prière, apporter cela au Seigneur et croire sa parole. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans le psaume 110, il est écrit que tous les adversaires seront placés sur son marchepied, sous son marchepied. Dans Romains 15, il est écrit que l'adversaire sera placé sous notre pied. Au verset 20, Romains 15, verset 20, et psaume 110. Et ça, nous allons maintenant l'apporter au Seigneur dans la prière et lui dire que lui, le victorieux de Golgotha, lui qui a écrasé la tête du diable, qui a vaincu le serpent, qui a utilisé sa langue pour détruire et pour donner son poison, son venin, que la tête soit, sa tête, encore une fois, soit écrasée, encore une fois. Et ça, nous voulons, en cet endroit, l'expérimenter. Tel que le dernier mercredi, le 25 avril 1979, il y avait un cri dans cette pièce, que tout est terminé. Tout est fini, que aujourd'hui, en ce jour, cela soit annoncé que Dieu a fait un nouveau commencement par sa grâce. Pas ce que Satan a dit par une femme, mais ce que Dieu a dit par sa parole. Que cela se passe dans le saint nom de Jésus-Christ, dans le merveilleux nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous ne sommes pas ici pour nous défendre. Nous sommes ici pour défendre la parole de Dieu avec la responsabilité de dispenser justement et correctement ta parole et la propager dans le monde entier et la porter. Ô bien-aimé Seigneur, aie ton chemin avec ton Église et bénis d'aujourd'hui d'une manière surnaturelle. À partir d'aujourd'hui, d'une manière surnaturelle, couronne-nous tous de grâce et de miséricorde. Et l'œuvre de tes mains te soit remis. Tu as achevé l'œuvre de la rédemption et tu achèveras l'œuvre de... Tu as achevé l'œuvre de la création et tu achèveras l'œuvre de la rédemption avec ton retour merveilleux. C'est ainsi que nous te demandons, laisse luire ta face sur nous tous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia.
Amen.
Amen.